Bonjour à vous, chères auditrices et chers auditeurs de La Voix de l'Amérique. Bienvenue à Votre Santé, Votre Avenir, le programme hebdomadaire santé de VOA Afrique, présenté par Nanit Talani. On entend souvent dire que pratiquer une activité sportive régulière est bon pour la santé. Quels sont réellement les effets bénéfiques de l'activité physique sur la santé? C'est autour de cette question que s'articule Votre Santé, Votre Avenir de cette semaine. Pour y répondre, nous nous entretiendrons avec Monsieur Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France.
Le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, du cœur. Il est exposé à beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
Monsieur Bengali Daouda Boukar est professeur de sport à Limoges en France. Après cette interview, vous suivrez Carnet de santé avec Linor Moudou dans la deuxième partie de l'émission.
Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine.
Comme promis, voici notre interview avec Monsieur Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Notre interview va s'articuler sur les bienfaits de l'activité sportive. Bonjour Monsieur Bengali.
Bonjour.
Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler des bienfaits du sport sur la santé. Quels sont les bénéfices du sport pour l'organisme humain?
Les bénéfices sont énormes. D'abord en termes de santé, plus on fait une activité, mieux le corps se porte au niveau des renforcements musculaires, au niveau du maintien musculaire, au niveau des os, au niveau cardiaque, il y a plein de bénéfices.
Le sport procure-t-il des bienfaits sur le plan mental?
Au niveau mental aussi, on a pas mal de récupération puisque plus on fait du sport, je crois mieux le cerveau aussi travaille très bien. Et puis, il y a aussi un côté bénéfique du sport, c'est au niveau de la socialisation. Ça rapproche les gens.
Merci beaucoup. Et pour le maintien de l'organisme, quelles sont les différentes sortes de sports qui sont recommandées?
Ça dépend de l'organisme des uns et des autres. Il y a des gens qui sont destinés peut-être pour faire de sport de force. Il y en a qui font de sport d'équilibre. Il y en a qui font de sport d'endurance.
Est-ce que le sport, c'est toujours de la compétition?
D'abord, quand on parle sport, on parle compétition. Mais pour le commun de mortel, c'est le fait d'aller courir, le fait d'aller sauter un tout petit peu, le fait de faire d'autres activités. Tout cela concourt au maintien de la santé, concourt à l'amélioration de la santé. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on fait de moins en moins aujourd'hui en raison de la sédentarité maintenant que les gens ont acquis dans les grands centres.
Dans les villages et même dans les villes, il y a beaucoup de gens qui font des travaux manuels de façon quotidienne. Est-ce que ces personnes doivent encore pratiquer du sport de façon régulière?
Non, ces gens-là, ils font déjà une activité. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à leur faire comprendre que, bon, en dehors du travail qu'ils font, il y a autre chose qui concourt à leur santé. Parce que les gens qui sont dans les campagnes, déjà les femmes, le fait d'aller chercher de l'eau plus loin, elles marchent longtemps. Le fait de transporter des fagots, c'est aussi une activité. Le fait de cultiver, de labourer son champ, c'est aussi une activité. Donc tout ça là, ce sont des activités. Mais un certain nombre de parties du corps ont besoin d'autres choses que ce qu'on fait tout le temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec l'évolution, on va beaucoup plus aider ces gens-là à comprendre le fonctionnement de leur propre corps, comment aménager son corps, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le corps résiste en termes d'alimentation, mais en termes aussi d'activité. Il y a des activités qui sont totalement indépendantes de ce qu'on fait quotidiennement.
Quelles peuvent être ces différentes activités?
Le fait de marcher, le fait d'aller se baigner dans un fleuve, de nager un peu, le fait de faire de l'équitation ou le fait de faire un peu de vélo, tout ça concourt au renforcement de la santé et de la capacité de l'organisme.
Est-ce que le sport ou l'activité physique peut prolonger l'espérance de vie d'une personne?
Vous savez que ça n'a peut-être pas d'incident, mais il y a des gens qui ne font pas de sport et qui vivent longtemps, et il y a des gens qui font du sport et qui meurent sur le terrain. Donc tout cela est fonction vraiment de l'organisme des uns et des autres et de la gestion. Si on connaît bien son organisme, si on gère bien son organisme, peut-être que l'espérance de vie se prolongerait. Il y a des gens qui ne font pas de sport du tout, mais qui vivent le plus longtemps possible.
Comment peut-on expliquer le fait que certaines personnes pratiquent du sport, meurent vite, alors que d'autres ne pratiquent pas du sport, mais vivent longtemps?
C'est parce qu'ils ont un organisme qui s'adapte plus facilement à toutes les activités et qui n'a pas besoin d'être forcément aidé par autre chose. Mais il y a ceux qui font du sport aussi. Entre ceux-là, c'est le contrôle quotidien, hein, c'est le contrôle sans arrêt. Parce que s'ils ne le font pas, évidemment, tout d'un coup, ils se rendront. Parce qu'on a vu des sportifs sur le terrain s'effondrer. Parce qu'on n'a jamais, en amont, fait attention à leur organisme. Donc, le fait de faire du sport, dans un sens, peut-être que ça prolongerait la vie, mais dans l'autre, il faut faire attention.
Donc, suivant les cas, le sport peut ou ne pas jouer sur l'espérance de vie des gens?
Dans le sens où ça prolongerait la vie, je dirais simplement pour nos parents qui sont dans les campagnes. Vous savez, il y a longtemps, les gens, ils mouraient simplement parce que on dit qu'ils ont la maladie ou ils avaient du mal à uriner. En fait, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de la prostate et ça, chez tous les hommes, ça existe. Maintenant, si on sait que ça existe et que, voilà, par le fait de faire des activités, évidemment, on court moins de risques à faire en sorte que la prostate, là, se développe très vite. Donc, il y a des choses qu'il faut maintenant arriver à faire comprendre aux gens qui sont aussi dans la campagne que, voilà, il y a des choses qui peuvent améliorer leur vie et prolonger la vie.
Les personnes qui souffrent, par exemple, des maladies cardiaques, est-ce qu'elles peuvent s'adonner sans danger à une activité physique régulière?
Non. Il y a toujours un danger. Mais les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, d'abord, elles doivent être sous contrôle médical. Et c'est à partir de médecins qui diront, bon, voilà, tel sport, c'est mieux de le faire, ça comporte moins de risques, mais ça améliore également la santé. Mais on ne fait pas n'importe quel sport. Quelqu'un qui a un problème cardiaque, il ne va pas se mettre tout de suite à faire un sport où il faut qu'il aille très vite et il faut qu'il mette à rude épreuve son cœur. C'est une question d'adaptation. Ça, c'est les médecins qui les contrôlent, ça.
Les personnes âgées, quelles sont les activités sportives ou les activités physiques qui peuvent leur être recommandées?
Beaucoup plus de marche. Les personnes âgées, aujourd'hui, avec l'urbanisme, maintenant les gens marchent peu et plus on grandit, plus on est âgé, plus on prend un peu aussi du poids. Et si on ne fait pas d'activité pour éliminer tout ça, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, si on ne fait pas attention à son sommeil, tout ça, évidemment, c'est assez compliqué. Mais je crois que tout médecin conseillera à l'avance, il faut marcher.
En rapport avec la marche, on a un auditeur qui s'appelle Daniel Lass, il est de la RDC. Il pose la question suivante. Si j'évite l'obésité et que je marche une distance de 12 km trois fois par semaine, est-ce que cela peut être la solution ou cet exercice pourrait encore avoir des répercussions sur ma santé?
Déjà, marcher trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Maintenant, ce n'est pas seulement marcher qui suffit. Il y a marcher, mais il y a également la régulation de ce qu'on mange. Parce que ça sert à rien si on doit marcher 12 km et puis après, une fois au repos, on se goinfre et puis on mange des McDo. Donc c'est une question de surveillance de son alimentation et de l'activité. On fait l'activité parce qu'on veut perdre des kilos, mais si une fois qu'on a fini l'activité, on doit aller se charger, ça sert absolument à rien. Donc il faut lier l'alimentation avec l'activité qu'on fait.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
On a un autre auditeur, Alphonse Mbouaki, toujours de la RDC, qui veut savoir si les exercices corporels peuvent éloigner la vieillesse précoce.
Ah, la vieillesse précoce. Oh, tout le monde a peur de vieillir.
Eh oui.
Mais bon, déjà, le fait d'être régulièrement en activité, c'est un plus. Hein. On est à l'abri de pas mal de maladies, on est à l'abri de pas mal de maux de ceci, de maux de cela. Quelqu'un qui fait régulièrement d'activité, il dort bien et puis en plus, il mange bien. S'il n'a pas de maladie, s'il n'a pas de problème de santé, évidemment, sauf accident de circulation. Autrement dit, il n'y a pas de raison que la vie ne se prolonge pas.
Et les enfants peuvent-ils aussi faire du sport ou doivent-ils faire aussi du sport?
Les enfants, c'est d'abord le jeu. Les enfants jouent. C'est beaucoup plus sous forme ludique qu'il faut intéresser les gens à toutes les activités. Il faut qu'ils touchent un peu à tout. Ils sortent, ils courent. Au niveau des enfants, on n'est pas dans la recherche de la compétition. On est dans la recherche de jeu. Ça permet un meilleur développement. Et puis ensuite, le fait de jouer avec les uns et les autres, ça leur permet d'avoir une certaine autonomie, une certaine personnalité. C'est bon si on peut les amener à le faire régulièrement. Il ne faut pas non plus exagérer. Ça dépend de leur âge. Ça dépend de pas mal de choses. Mais on fait attention. Mais déjà, à l'école, ils doivent le faire, leur sport.
Pour un sport de maintien, juste pour maintenir l'organisme, quelle est la meilleure activité physique? Est-ce que c'est celle que l'on peut pratiquer individuellement ou celle que l'on pratique collectivement ou en groupe?
Bon, il y a des gens qui se mettent en groupe parce que ça les motive, et tant mieux si le fait de se mettre en groupe, c'est motivant, ça leur permet de faire. Mais il y a aussi des gens qui, bon, aujourd'hui, j'ai pas un partenaire pour aller courir, mais je vais tout seul, je vais pas m'arrêter, c'est pas parce que j'ai pas de partenaire que je cours plus, mais je me lève et puis je vais courir, je vais marcher, voilà. Donc, dans les deux cas, c'est toujours bénéfique, hein.
Pour terminer notre interview, que peut-on faire pour inspirer les personnes qui ont du mal à bouger ou qui hésitent à faire de l'activité physique?
Malheureusement, mais il faut leur faire peur un peu. Parce que le fait de ne rien faire, il faut arriver à les convaincre du bienfait du sport. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut arriver à leur faire comprendre que le fait de ne pas bouger favorise un certain nombre de maladies. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui mange simplement, qui prend du poids, s'il ne bouge pas, évidemment, ça devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué au niveau de l'organisme, ça devient plus compliqué au niveau du cœur. Donc, il est exposé. Quelqu'un qui ne fait pas d'activité a beaucoup plus de risques de se choper une maladie quelconque que quelqu'un qui bouge régulièrement.
Merci beaucoup, Monsieur Bengali, d'avoir répondu à nos questions.
C'est moi qui vous remercie.
C'était notre entretien avec Monsieur Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges, en France.
Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique.
Voici le moment de suivre Carnet de Santé avec Linor Moudou.
Cette semaine, dans Carnet de Santé, un expert nous donne quelques conseils pour prévenir ou gérer le stress. La cigarette électronique serait-elle sans effet néfaste sur la santé? La réponse dans votre rubrique « Vrai ou faux ». Enfin, un détecteur portable d'allergènes pourrait aider le consommateur à se protéger contre les allergies. C'est dans cette édition de Carnet de Santé.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour une autre édition de Carnet de Santé. Ravie d'être avec vous. Imaginez ceci, vous avez des factures à payer, mais vous êtes sans emploi, peut-être depuis 6 mois, ou alors les enfants n'arrêtent pas de crier, ou peut-être que vous êtes en retard pour une réunion, vous êtes sûrement stressé. Le stress fait en réalité partie de la vie, il peut vous motiver à avancer dans votre travail, mais si vous ne maîtrisez pas votre stress assez rapidement, cela peut sérieusement perturber votre travail, votre vie de famille et même votre santé. En somme, le stress est un réflexe tant psychologique que physiologique de l'organisme devant une situation difficile. Selon une étude réalisée par le site de recherche sur l'emploi Office Vibe, 77% des salariés dans le monde ressentent quotidiennement des douleurs physiques attribuables au stress. Nous nous sommes rendus à Dakar où nous vous avons demandé qu'est-ce qui vous cause du stress. Voici vos témoignages recueillis par Echa Sarai.
Qu'est-ce qu'on fait pour combattre le stress? Oui. Il y a un bon truc pour combattre le stress, c'est la prière.
Ok.
Et se détendre. Donc dans Dakar, il y a beaucoup de spots pour se détendre, notamment aller en bord de plage et aller prendre un verre avec des amis en bord de plage, c'est déjà très bien.
Ah mais il faut travailler, parce que tu travailles, bon, mais après c'est ça.
Moi je pars tous les jours pour m'entraîner, après j'écoute la musique, après je rentre chez moi, après je vais faire étirement, après si je finis, je vais me laver, après je me repose.
Pour éviter le stress, il faut aussi en parlant, vous fixer un tir. Bon, comme l'a dit tout à l'heure, le sport, bon, et parler surtout beaucoup, discuter avec tes amis comme ça.
Pour éviter le stress, je vous recommande de faire du sport, d'écouter des musiques douces, ou d'être en réunion, en communication avec d'autres personnes, quoi, pour discuter, pour échanger des idées, quoi, et faire des marches. Éviter d'être seul, surtout.
Qu'est-ce qui cause le stress? Comment l'éviter ou le maîtriser? Pour en savoir plus, nous joignons William Heckman, directeur exécutif de l'Institut américain du stress. Monsieur Heckman, merci d'être avec nous.
Oui, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir.
Quels sont les signes qui indiquent que quelqu'un est stressé et comment pouvons-nous comprendre ce qu'est le stress?
Vous savez, c'est une très bonne question, on me la pose souvent. Qu'est-ce qui est le stress? Pour être honnête avec vous, il n'existe pas une définition unique du stress. Ce qui semble être stressant pour vous peut être réellement agréable pour moi. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que le plus souvent, le stress est décrit comme une tension physique, mentale ou émotionnelle perçue par votre corps. On l'appelle parfois fight or flight syndrome, le syndrome de lutte ou de fuite. Votre pouls augmente, votre souffle s'accélère et vos muscles peuvent se raidir. C'est en effet une réponse conçue pour protéger votre corps en cas d'urgence.
Ok, alors qu'en est-il de la façon dont cela affecte notre corps et peut-être même notre santé mentale? Comment pouvons-nous en reconnaître les signes?
Bien, c'est une bonne question. Encore une fois, si vous vous sentez stressé à propos de quelque chose, votre pouls peut augmenter, vous pouvez ressentir de maux de tête et, dans certains cas extrêmes, une attaque de panique ou quelque chose du genre. Donc, si vous vous sentez dans un état inhabituel, vous devriez examiner ce que vous avez et voir si cela a un rapport avec le stress dans votre vie.
Donc, lorsque nous examinons la question, vous avez mentionné le fait que la cause du stress chez une personne peut donner des résultats différents chez d'autres personnes. Alors, que pouvons-nous faire pour prévenir ou réduire le stress de façon générale?
Nous pouvons gérer notre stress. En fait, notre stress n'est rien d'autre que la manière dont nous percevons les choses. Il existe de nombreuses techniques de gestion du stress. Si vous allez sur stress.org, notre site web, nous y avons beaucoup de façons de gérer le stress. Et les manières sont différentes pour chacun, mais de façon générale, nous pouvons tous faire certaines choses. Le sport est toujours un excellent moyen de réduire le stress. Manger correctement, passer une bonne nuit de sommeil, c'est juste du bon sens. Mais ce qui va soulager votre stress sera un peu différent pour chaque personne. Certaines personnes peuvent peindre et d'autres peuvent faire de l'exercice physique.
Ok, Mr. Hagman, thank you so much for your
Ok, d'accord, Monsieur Hagman.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous vous avons posé la question suivante. Que faites-vous pour vous détendre lorsque vous êtes stressé ou comment faites-vous pour réduire votre stress? Voici ce que certains d'entre vous ont répondu sur Facebook. Martina Kabamba dit, pour me détendre, j'écoute de la musique et surtout ma chanson préférée. C'est un grand remède pour moi. Jeff Munda nous dit, quand je suis stressée, j'anime mes proches avec de l'humour, un peu de comédie. Je souris, je ris même. Et Daouda Soare qui dit, je fais du sport quand je suis stressée, tout simplement. Ensuite, Ergin Gala nous dit, quand je suis stressée, je lis les commentaires sur Facebook notamment. Mais merci d'avoir partagé avec nous vos astuces. À Los Angeles, une thérapeute du mouvement de la danse aide les patients à réduire leur stress et leur anxiété tout en apprenant à vivre en paix. Sa méthode encourage à passer du temps à la plage et danser pour chasser la douleur, la peur et le désespoir. Angelina Bagsarian a rencontré la thérapeute pour en apprendre davantage sur le pouvoir de la danse.
Yulia Wisniewski explique que chaque mouvement contribue à un objectif. Pendant qu'elle écoute de la musique via son casque, Yulia danse et s'abandonne à une véritable catharsis de ses émotions.
Mon père est décédé subitement il y a 9 ans et j'ai réalisé que la danse m'aidait à gérer mes émotions et ma tristesse. J'ai pu mieux me comprendre en dansant.
Ce qui a commencé comme un passe-temps est devenu un métier. Yulia s'est lancée dans la thérapie à travers la danse. Elle a obtenu un diplôme de conseillère en santé mentale et s'est spécialisée dans la thérapie par les arts expressifs et les mouvements de danse. La thérapeute a su choisir la salle de danse idéale, une plage dorée de Venice Beach à Los Angeles.
Nous étudions les liens étroits entre les mouvements du corps et les émotions. Nous apprenons à utiliser la musique et la danse pour nous aider à nous débarrasser de la dépression, à réduire le stress et à surmonter les traumatismes de l'enfance.
Chaque lundi, des dizaines et parfois même des centaines de personnes se rendent sur cette plage. Munies de casques, elles pratiquent la danse thérapeutique. Les cours coûtent $20, mais même ceux n'étant pas en mesure de payer sont toujours les bienvenus. Pour Yulia, c'est très simple. Si quelqu'un ressent le besoin de venir, il est accueilli les bras ouverts. La thérapeute montre les mouvements et les gens tentent d'exprimer leurs émotions par la danse en essayant de laisser leur peine sur la plage.
Je me sens libre, je me sens ouverte. J'ai l'impression que le stress que je ressens d'être simplement humaine commence à se dissiper. Parfois, les gens pleurent lors de la libération de leurs émotions. C'est un espace dans lequel vous pouvez tout ressentir.
Pour les spectateurs, le concept peut sembler drôle. Un club de danse sans musique sur la plage, mais les riverains y sont habitués.
La danse ne sert pas uniquement lors des mariages. Quelle que soit votre humeur, la danse a un impact sur vous. Les gens vous disent peut-être « Oh, je n'ai pas envie de danser », mais c'est exactement à ce moment-là qu'il faut danser.
Les cigarettes électroniques représentent un danger majeur selon un rapport du Centre de contrôle et de la prévention des maladies aux États-Unis. Supposée être une alternative positive au tabagisme traditionnel, l'utilisation des cigarettes électroniques, aussi appelées vapotage, ont en quelques années séduit des millions de consommateurs, particulièrement les jeunes. Mais la cigarette électronique serait-elle sans effet néfaste sur la santé ? Jérôme Adams, chirurgien généraliste aux États-Unis, nous en dit plus.
Nous savons que l'exposition à la nicotine pendant l'adolescence peut nuire de manière unique au cerveau en développement des adolescents, affectant ainsi l'apprentissage, la mémoire et l'attention. Nous savons que l'exposition pendant cette période critique du cerveau peut entraîner d'autres dépendances et nous savons que la notion selon laquelle l'aérosol de cigarette électronique est aussi inoffensif que la vapeur d'eau, quelque chose que même mon fils de 14 ans pensait être vrai, est un mythe. Un tiers des jeunes qui ont déjà consommé des cigarettes électroniques ont consommé de la marijuana. Pourtant, deux ans après que mon prédécesseur a tiré la sonnette d'alarme, l'utilisation de la cigarette électronique chez les jeunes a explosé. Si bien qu'aujourd'hui, je déclare officiellement la consommation des cigarettes chez les jeunes une épidémie aux États-Unis.
Le premier décès lié à la cigarette électronique a été enregistré récemment ici aux États-Unis. Pour l'Organisation mondiale de la santé, la cigarette électronique est incontestablement nocive. Que vous viviez dans une ville ou en campagne, il y a toujours des choses dans l'air invisibles à l'œil nu qui pourraient vous faire éternuer ou causer une maladie grave. La détection de ces particules microscopiques telles que le pollen, les moisissures et les polluants pourrait prendre beaucoup de temps et coûter cher. Un laboratoire de l'Université de Californie à Los Angeles tente de résoudre ce problème en mettant au point un détecteur portable d'allergènes pour les consommateurs. Reportage d'Elisabeth Lee.
Les plantes à fleurs et les animaux domestiques peuvent sembler jolis et mignons, mais ils émettent tous de petites particules dans l'air pouvant causer des problèmes de santé. Aydoan Osjan et son équipe à l'UCLA développent cet appareil portable appelé microscope informatique, capable de détecter des particules telles que la moisissure, le pollen et même les polluants présents dans les maisons et même les voitures.
Cet appareil peut examiner la contamination de l'air, les particules, leur densité.
Osjan affirme qu'il est précis à plus de 90% dans l'identification des allergènes tels que le pollen et les moisissures. Les particules de l'air sont déposées sur un matériau transparent jetable à l'intérieur. Ensuite, une lumière brille sur ces particules, créant des hologrammes.
Il faut ensuite un moteur de calcul pour reconstruire cet hologramme et créer des images que nous sommes habitués à voir à travers un microscope classique comme celui-ci. Cet appareil est donc contrôlé par un téléphone portable. Le téléphone lui-même a une application spécifique qui est l'interface utilisateur graphique pour montrer ce que vous avez capturé ainsi que les résultats.
Selon Osjan, l'imageur pixel de 10 ou 15 mégas dans les téléphones mobiles permet que ce détecteur d'allergènes fonctionne. L'imageur enregistre des motifs de diffraction provenant des particules.
Grâce aux milliards d'utilisateurs de ces téléphones mobiles qui ont besoin de ces caméras, nous pouvons les miniaturiser tout en restant compétitifs en termes de performance par rapport à une instrumentation de pointe.
Osjan et son équipe travailleront à rendre cet appareil un peu plus petit. Il dit qu'il devrait coûter moins de $100 et espère le rendre disponible pour les consommateurs d'ici quelques années.
Ce détecteur portable d'allergènes est une innovation très intéressante qu'on espère vraiment effective et aussi à la portée de tout le monde. Dans notre prochaine édition de Carnet de santé, nous parlerons de la drépanocytose. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou.
C'est ici que s'achève le magazine Votre santé, votre avenir. La première partie de ce programme hebdomadaire s'articulait autour de l'importance de l'activité physique sur la santé. Nous nous sommes entretenus avec M. Bengali Daouda Boukar, professeur de sport à Limoges en France. Ensuite, nous vous avons proposé Carnet de santé présenté par Lénore Moubou. Ce programme santé a été réalisé grâce au concours de Cheikh Thierry. Devant ce microphone, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et surtout n'oubliez pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.
Sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez
pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 500.